Juste une petite histoire pour introduire. Une petite histoire que je vous ai déjà racontée à plusieurs reprises et que j'aime me rappeler. C'est pas une histoire rigolote, mais elle était extraordinaire. Ça se passe en Corée du Nord et il y a là un couple et leurs deux enfants qui ont décidé de témoigner de l'amour de Dieu dans les villages environnants. Et puis, les personnes qui sont là n'aiment pas ce message. Ils les attrapent, ils creusent un trou, ils les mettent dans le trou, le papa, la maman et les deux enfants, et commencent à les enterrer vivants en leur demandant de renier leur foi. Et ils se prennent par la main et ils commencent à chanter des cantiques. Les enfants sont les premiers à mourir. Et puis les parents meurent. C'est une histoire dramatique, mais c'est une histoire de témoignage. Combien sont partis comme ça pour le témoignage de Jésus-Christ, pour le témoignage d'amour ? Sans violence, juste pour annoncer la joie d'être en Jésus-Christ. Ils sont morts en chantant des cantiques. Jean, chapitre 16, versets 31 à 35, nous raconte cette histoire de Jésus, juste après, probablement au moment où du repas du Seigneur, cela se passe. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. » Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce qui me frappe dans ce texte, c'est « a été ». Je ne sais pas si la gloire du Fils de l'homme a été révélée. C'est pas « sera révélé ». Pour nous, c'est la résurrection. Non. Jean dit « a été » à travers la bouche de Jésus. C'est curieux que Jésus emploie le passé. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? C'est au moment précis où Judas part dans la nuit de la trahison que lui, Jésus, accomplit sa vocation d'être le reflet de Dieu. Jean ne l'a pas compris tout de suite. Remettons-nous un petit peu dans l'état d'esprit des disciples de ce qui va suivre. Jésus va être dans sa passion à Gethsémané. Terrible, une terrible angoisse va le prendre. Jean sera témoin. Il fera partie des plus intimes à ce moment-là. Et puis, Jésus ensuite est fouetté. Il est ensuite crucifié. Et Jean était là, l'a suivi jusqu'au pied de la croix avec les femmes. Ils ont, ses disciples, assisté à la passion et à la mort du Christ. Et ils ont vécu cette succession d'événements comme des moments d'horreur dans leur existence. Mais après coup, Jean a compris que c'était en réalité l'heure de la gloire de Jésus, et c'est pour ça qu'il nous l'écrit. Car c'est là que le Fils révélé jusqu'où va l'amour du Père. Et parce que le Fils, qui a été trahi, abandonné de tous, persécuté par tous, persiste lui seul contre tous à n'être finalement qu'amour, que bienveillance et pardon, il va révéler au monde, à ses disciples, jusqu'où va l'amour du Père. Et on le chante, c'est-à-dire jusqu'à l'infini. un amour sans limite. Le but de Dieu à travers l'œuvre de la création et à travers sa parole, c'est de nous dire qu'il nous aime. C'est tout. On dit c'est un livre d'amour, on le dit toujours. Mais c'est ce qu'il essaie de révéler, de nous révéler à chacun d'entre nous, c'est Dieu t'aime. Et comme parents, nous avons cette première information à transmettre à nos enfants, c'est que nous les aimons. On les chérit. C'est pour ça que peut-être il faut les tenir près du sein, hein, pour les allaiter, ça se fait comme ça, près du cœur. Là, on a été conçu comme ça pour dire « je t'aime d'un amour inconditionnel ». Juste pour ce que tu es, pas pour ce que tu deviendras un jour, mais je t'aime pour ce que tu es, juste maintenant. Je t'aime maintenant comme tu es. C'est sur cette première information que finalement l'enfant pourra construire une vie équilibrée. Mais c'est quelque chose de si difficile à faire que de faire comprendre à son enfant qu'on l'aime. C'est, vous savez bien, vous qui avez des enfants, mais vous aussi qui avez été enfant, donc nous tous, nous savons bien que c'est difficile à comprendre qu'on est aimé. Peut-être n'avez-vous pas été aimé par vos parents, mais Dieu vous aime. Dieu vous aime. C'est difficile, surtout quand il faut reprendre son enfant, quand il faut le punir, quand il a fait des bêtises, pour lui faire comprendre que ce qu'il fait, c'est mal, et que ça a des conséquences. Et pour un temps, il nous faut encore plus d'amour. Il faut accepter par amour que notre enfant nous regarde avec de la colère, avec de la déception. Et on accepte cette idée-là que pour quelque temps, notre enfant se dise qu'on ne l'aime pas vraiment. Et ça, c'est de l'amour. Nous avons, avec Marie-Léna, lu certains livres d'éducation des enfants, parce que, bon, à un moment, on se dit, ben, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, on a besoin de conseils. Et il y avait un livre d'un pédopsychiatre qui écrit ce livre lorsqu'il a une quarantaine d'années. Et en écrivant ce livre, il écrit « Il m'a fallu 40 ans pour comprendre à quel point mes parents m'ont aimé. » Alors, ne perdons pas courage en tant que parents. Et en tout cas, notre Dieu, notre Père, lui, ne perd pas courage. Il nous aime d'un amour, la Bible nous dit, inconditionnel. Et il faut se le rappeler toujours quand il semble qu'il nous a abandonnés dans les épreuves de notre vie. Parfois, je me sens comme au milieu de la mer et j'ai du mal à atteindre le rivage. Et je me dis, mais pourquoi il ne vient pas me chercher quand je l'appelle? Pourquoi il ne vient pas me chercher? Alors je lui dis, ne vois-tu pas donc dans quelle difficulté je suis? Non. Tu ne peux pas comprendre quelle galère je suis en train de vivre, Seigneur. Est-ce que tu peux passer la diapo suivante? Attends, ça va. C'est un peu comme cette image. C'est ce moment où vous essayez d'expliquer à Jésus à quel point votre vie est difficile. Bon, c'est une image terrible tirée du film La Passion, mais moi je trouve qu'elle m'a parlé terriblement. Parce que ce sang qui est sur ce visage de Jésus, c'est pas plus que la réalité qu'il a dû vivre. Quand on vous colle une couronne d'épines sur la tête, ça saigne très fort. Ça saigne fort. C'est à lui que nous parlons lorsqu'on dit « Seigneur, je suis dans la galère. Tu comprends donc pas dans quelle galère je suis ?» Et il est pourtant là, à côté de moi, et il me dit « Ben, utilise tes bras comme je te l'ai appris. » Tu as deux bras, la parole, la prière, pour nager. Vas-y, vas-y, je suis avec toi. Je suis roi et je suis père. Je suis juste et je suis bon. Et le roi David le savait très bien quand il composa le psaume 145 que nous allons lire. Louange de David, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie ta louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Ce psaume comporte 21 versets et on dit c'est un acrostiche, c'est-à-dire que chaque verset commence par une lettre de l'alphabet hébreu dans l'ordre. Et il s'agit en fait d'un psaume d'action de grâce pour l'Alliance. C'est une manière de dire que toute notre vie, de A à Z, on va dire en hébreu de Aleph à Tav, baigne dans l'Alliance, dans la tendresse de Dieu. Et ce psaume figure dans la prière juive de chaque matin. Pour le juif croyant, le matin, c'est-à-dire l'aube d'un jour nouveau, ça évoque l'aube du jour définitif, l'aube d'un jour dont on parlera tout à l'heure, celui du monde à venir, celui de la création renouvelée. Et notre foi, c'est précisément que le jour du règne définitif de Dieu, eh bien, a déjà commencé. Il a commencé avec Jésus-Christ. Et on voit immédiatement la résonance que cela prend pour nous chrétiens. Le jour du règne de Dieu a commencé et il a été inauguré par la résurrection de Jésus-Christ. Ce psaume, si vous regardez, ça a une parenté très proche avec notre Père. Notre Père, donne-nous, pardonne-nous, délivre-nous du mal. Et puis un Père qui est un Dieu de tendresse, un Dieu de pitié dont parle ce psaume. Et puis aussi comme un roi, que ton règne vienne. Et ces paroles que Jésus dit quand ses disciples lui demandent « Apprends-nous à prier, Seigneur. » Et il leur donne cette prière. Ce sont pas une prière nouvelle, car toutes les paroles que Jésus emploie étaient déjà dans les prières juives. Leur prière habituelle. Très certainement, quand David composait ce psaume, cette insistance sur la royauté de Dieu, sur son empire, c'était une manière de dire « Plus jamais ». Plus jamais nous ne ferons confiance à des idoles. Et chaque matin, on se dit ça. Voilà notre Dieu. Comment est notre Dieu? Il est roi et il nous aime. Il est roi et il est notre Père. Et tout ce qu'il veut, c'est notre bonheur. Chaque matin, on se le rappelle pour ne plus faire confiance dans les idoles qui nous entourent. Notre seul roi, notre seul maître, c'est Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de tendresse, le Dieu de pitié, le Dieu lent à la colère et plein d'amour. Quand nous, fidèles à Jésus-Christ, on dit ce psaume à notre tour, nous savons de qui il parle. C'est de Jésus-Christ, le roi serviteur. C'est lui qui ouvre sa main pour donner la nourriture en son temps. Notre Dieu nous sert. C'est lui qui nous donne sa vie. Dire ce psaume, c'est redire que Dieu nous aime. Que même si les circonstances de notre vie nous font douter, notre Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. C'est l'apôtre Paul qui nous rappelle ceci. Il est souverain maître de l'histoire. Le texte nous parle, dans Jean, nous parle aussi le Fils de l'homme. C'est pas le Fils de Dieu. Vous avez vu dans le psaume, on parlait les fils de l'homme. Parce que quand Jésus est désigné et se désigne le Fils de l'homme, il se désigne comme notre frère, comme notre grand frère. Ce n'est pas le Fils de Dieu qui est glorifié, mais c'est le Fils de l'homme qui est glorifié. Et c'est cette gloire que Jésus a acquise, non pas par sa divinité, mais il l'a acquise par son humanité, par son amour qu'il a manifesté sur la terre, et puis qui va resplendir encore plus par les humiliations qu'il va vivre ensuite, et les souffrances à Gethsémané et puis sur la croix. Paul le dira aux Éphésiens que c'est par son obéissance et son abaissement que Jésus, Fils de l'homme, a été introduit dans la gloire divine. Fils de l'homme, car c'est comme Fils de l'homme que Jésus a accompli son œuvre sur la terre et qu'il est monté dans sa gloire. Et ainsi, il a rouvert à notre humanité sauvée le chemin de la gloire. Je vais juste derrière, je suis allé trop vite. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Paul dit aux Romains, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Christ glorifié, c'est l'humanité qui est glorifiée en Jésus-Christ. Nous avons accès, tout à coup, à ce que Dieu nous offre à travers Jésus-Christ et nous a donné comme témoignage à travers Jésus-Christ. Il nous a prédestinés pour être semblables à notre grand frère Jésus-Christ. Pardon. Jean nous parle d'un commandement nouveau. Un commandement nouveau. Le Fils qui a été trahi, qui a été abandonné de tous, qui a été persécuté par tous, persiste lui seul contre tous à n'être qu'amour, bienveillance, pardon. Et il révèle au monde jusqu'où va l'amour du Père. Et on a dit, c'est un amour infini, sans limite. Et la deuxième partie du texte nous invite à ceux qui contemplent ce mystère de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus à travers Jésus-Christ, de l'amour du Christ, qu'on peut être capable d'aimer comme lui a aimé. c'est possible. Car Jésus va lier les deux choses. Il dit « Maintenant, je vais révéler au monde jusqu'où va l'amour du Père. Et maintenant, je vous donne un commandement nouveau, c'est d'aimer de la même manière. » Sous-entendu, maintenant, vous en serez capable parce que vous puiserez en moi mon propre amour. En fait, la nouveauté, ce n'est pas le commandement de nous aimer les uns les autres. Parce que ce commandement, les rabbins l'enseignaient déjà à l'époque et continuent à l'enseigner. Non, ce qui est nouveau, c'est de pouvoir aimer comme lui. Non seulement à sa manière, c'est-à-dire au point d'être prêt à donner sa vie. D'ailleurs, c'est curieux comme on peut être prêt à donner sa vie pour quelqu'un, mais on n'est pas prêt à lui donner un peu de temps. Hein ? Et c'est valable pour aimer ses enfants. Oh, j'aime mes enfants, je donnerai ma vie pour eux. Mais on n'est pas capable de leur donner le temps nécessaire. Non, c'est pas de cela dont seulement il parle. C'est pas seulement comme Jésus a donné sa vie. Mais ce qui est nouveau, c'est d'aimer comme lui. C'est-à-dire au point de refuser toute puissance, toute domination, de refuser toute violence. Mais ce qui est nouveau, c'est encore plus que cela, c'est d'aimer vraiment comme Jésus-Christ. C'est-à-dire être complètement guidé par l'Esprit de Jésus-Christ. Et alors, nous comprendrons désormais cette phrase de Jésus qui dit « Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Bien plus qu'un commandement, en fait, c'est un constat que Jésus nous donne. J'ai donné ma vie pour vous, j'ai donné mon esprit pour vous. Maintenant, constat, c'est que vous êtes capable d'aimer comme moi. Et si nous sommes réellement ses disciples, c'est le propre esprit de Jésus-Christ qui va nous apprendre à aimer, même dans les jours difficiles. Pour le dire autrement, Dieu sait si l'amour, au jour le jour, c'est quelque chose de difficile, surtout avec nous, surtout avec moi. C'est presque un miracle que de pouvoir aimer. Si nous y parvenons dans nos communautés chrétiennes à nous aimer de cet amour-là, le monde sera obligé d'admettre cette évidence que l'Esprit du Christ agit en nous. Ça, c'est une réalité. Et nous sommes donc invités d'abord à un acte de foi. Peut-être il suffit juste de croire que c'est possible. Croire que son esprit habite en nous maintenant, qu'il habite dans ton cœur maintenant, et que tu as les ressources suffisantes pour aimer comme Christ a aimé. Tout devient possible d'aimer comme lui, parce que c'est son esprit qui agit en nous. Et tout cela peut sembler peut-être, vous dites, c'est quand même un peu trop beau, quoi. On sait par expérience que cela ne va pas de soi d'aimer notre entourage. Il y a des gens, bien sûr, pour qui ça va tout seul, quoi. Mais il y a des gens pour qui c'est plus difficile. C'est plus difficile, sans parler de ceux pour lesquels on peut avoir une réelle allergie, des personnalités qui ne nous vont pas du tout. Ou pire encore, ceux qui ont agi envers nous avec, d'une manière impardonnable. Mais le mot impardonnable, ça n'existe pas dans le langage chrétien. Il y a du pardon partout où il y a des choses à pardonner. Partout. Et c'est une occasion de mettre en œuvre la grâce de Dieu. Que là où il y a du pardon, eh ben, il y a l'occasion de mettre la grâce de Dieu. Là où il y a du péché, d'y mettre la grâce de Dieu. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et Jésus n'ignore pas tout cela quand il nous donne ce commandement et quand il le donne à ses disciples. Mais il ne faut pas confondre amour et sensibilité. Jésus vient de montrer ici en Jean 13, par un acte d'amour, et Jean dit, il mit le comble à son amour. Il se déshabilla, se ceignit d'un linge, et se mit à leurs pieds et lava leurs pieds. Ils étaient encore 12. Judas était parmi eux. Il lave les pieds de Judas. Peut-être espère-t-il qu'il va renoncer. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans le cœur de Jésus à ce moment-là. C'est le dernier repas que Jésus a avec ses disciples et il leur donne cet exemple. Il dit, c'est un exemple que je vous ai donné, ce que je fais pour vous, faites-le vous aussi. C'est donc cela, aimer comme il nous a aimés, et après tout, si on y réfléchit, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas besoin d'éprouver une attirance quelconque ou quelque chose, c'est faire, de se mettre en œuvre, de se mettre à l'œuvre pour aimer et accomplir ce commandement. Et notre fidélité à ce commandement, elle est vitale, nous dit-il, parce que c'est comme ça que nos communautés seront jugées. D'après lui, le plus important, ce n'est pas la qualité du discours qu'on peut avoir aujourd'hui, ou de notre théologie d'Église, ou de nos connaissances, et pas non plus la beauté de nos louanges, nos célébrations. C'est la qualité de l'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres, qui diront si nous sommes disciples ou non de Jésus-Christ. Uniquement ça. Pourtant, il est rare qu'on ait l'idée de juger l'histoire de l'Église sur ce critère-là. Est-ce que les communautés s'aimaient ? En attendant, on ne doit jamais oublier le cri de victoire de Jésus le dernier soir. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, c'est-à-dire révélé comme Dieu. Et Dieu est glorifié en lui. En Jésus, c'est l'humanité tout entière qui est introduite dans la gloire de Dieu. Maintenant, dans la présence de Dieu, dans la vie de Dieu, par l'événement de d'abord sa passion, puis sa mort, et puis sa résurrection. Et parce qu'ils sont désormais introduits dans la gloire de Dieu, les disciples, nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, on peut vivre la vie du Seigneur et vivre les signes de son amour qu'il nous donne. Parce que Dieu est amour. Il ne faut pas que l'on oublie. Peut-être suffit-il d'y croire pour le laisser agir en nous. Dans la petite histoire avec laquelle j'ai commencé, vous pouvez vous demander, mais je ne comprends pas parce que le couple est mort, les enfants sont morts, donc il n'y a personne pour témoigner de cette histoire. D'où tu me sors cette histoire, Pierre ? C'est que les gens qui ont enterré vivant ces personnes ont vu et ont entendu le témoignage de cette famille. Et ils ont cherché ce Dieu qu'ils aimaient. Et ils l'ont trouvé. Et ils ont trouvé une communauté en Corée du Sud. Une communauté à laquelle ils se sont joints. Et un jour, ils ont confessé. Ils ont confessé qu'ils ont commis un meurtre. Le meurtre d'une famille, le meurtre de chrétiens. Mais qu'à travers ce témoignage, c'est des gens qui ont donné leur vie à Jésus. L'Apocalypse 21 nous dit que « Voici que je fais toute chose nouvelle », nous dit le Seigneur. Et ces gens qui voient cette vision, qui dit « Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle ». Et c'est Pierre qui nous disait cela dans son étude. Si on perd cette espérance-là de ce monde qui nous attend, et qu'on une espérance vivante, c'est-à-dire qu'elle est maintenant, et elle s'accomplit, on perd le but de notre existence. On se perd. On a besoin de faire confiance. Tout va très vite. Donc, je voulais garder cette image pour la fin. J'ai vu un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toute chose nouvelle. » Dans le film La Passion, je voulais vous montrer un petit extrait, mais je n'ai pas réussi, où Jésus porte sa croix, et dans ce moment-là, il le met là. Et à ce moment-là, Marie est là, c'est juste le film, hein, c'est peut-être pas passé comme ça dans la réalité, mais on peut l'imaginer, c'est comme ça que Mel Gibson nous l'a traduit. Et Marie est là, elle un regard d'incompréhension sur son fils, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et Jésus qui se relève et il dit, ne vois-tu pas que je suis en train de faire toute chose nouvelle? Et dans notre vie, toutes choses peuvent être faites nouvelles encore. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Et c'est le Seigneur qui nous dit de lui faire confiance, même si les apparences vont contre cela, contre le fait que Dieu nous aime. Mais Dieu nous aime vraiment. Et nous aime vraiment. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour l'amour que tu nous donnes. Et cet amour, tu ne nous le donnes pas juste pour que nous sachions que tu nous aimes, mais tu nous le donnes parce que tu nous le donnes pleinement pour que nous soyons capables d'aimer comme tu nous aimes. Seigneur, nous voulons de cet amour-là, nous voulons pouvoir être capables d'aimer nos frères et nos sœurs, d'aimer ceux qui nous entourent comme toi tu nous aimes, comme toi tu as manifesté cet amour pour nous sur cette croix, en mourant pour nous, en partageant, Seigneur, avec nous ton héritage, des joies de ton Père. Seigneur, nous voulons dans cette communauté vivre cet amour. Donne-nous plus de ton esprit. Donne-nous plus de cet amour-là. Nous voulons, Seigneur, dans cette communauté être reconnus comme ceux qui s'aiment, comme toi tu aimes ton Église. Bénis-nous ce matin encore, Seigneur, et apprends-nous à avancer, non pas, Seigneur, avec les yeux de notre intelligence, mais avec les yeux de ton esprit. Par ta toute-puissance, nous te remettons toutes choses, nos soucis, nos difficultés, nos doutes, nos incapacités, Seigneur, nos péchés, nos faiblesses, pour que tu en fasses quelque chose qui soit digne pour ta gloire. Fais de nous un témoignage, Seigneur, pour cette humanité. En ton nom, Jésus-Christ, nous prions. Amen.